Je vous propose pour quelques mardis, hein, quand ce sera moi qui ferai, en tout cas au moins, qu'on puisse méditer sur un thème qui est très important dans l'Écriture, hein, qui est celui de la sainteté pratique du croyant. Hein. On pourrait prendre quelques mardis pour voir un peu ce que l'Écriture dit. Pas tout, on peut pas tout voir, mais au moins nous remettre un peu en pensée ce thème de la sainteté pratique du croyant. Alors, est-ce que nous pouvons, je commence avec quelques petites questions, est-ce que nous pouvons citer quelques versets qui traitent de la sainteté du croyant, la sainteté pratique du croyant? Est-ce que vous avez quelques versets qui vous viennent à l'esprit? Soyez saints, car je suis saint. D'accord? Ça c'est dans l'Ancien Testament, déjà repris par l'apôtre Pierre, au moins, oui. D'autres? Oui. Oui. D'accord, ok, très bien. D'autres? Sanctifiez-vous. Quel verset? Je peux te penser à quel verset? Rechercher, voilà, la sainteté ou la sanctification, dit-on, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça c'est dans l'épître aux Hébreux. Je pense que tu pensais un peu ce passage-là, peut-être, oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ne cherchez pas dans votre téléphone, hein. Si vous voulez voir bleu pour comme ça, qu'est-ce qui vous vient, hein? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On a ça dans Éphésiens, d'accord? Très bien. Pas Éphésiens, qu'est-ce que je dis? Un Thessalonicien, oui. Parce qu'on a lu Éphésiens tout à l'heure, et puis je dis Éphésiens. Un Thessalonicien, monsieur. D'autres qui vous viennent encore à l'esprit? Non? Alors, ma deuxième question, c'est quelle importance est-ce qu'on accorde à ce thème de la sainteté pratique? Est-ce qu'on y accorde une importance particulière? Est-ce que, par exemple, nous prions pour le développement de la sainteté, notre propre sainteté pratique? Est-ce que quand nous nous levons le matin, par exemple, nous, dans notre temps de prière, nous disons « Seigneur, aide-moi à être saint aujourd'hui dans ce que je dis, ce que je fais, ce que je regarde, hein, toutes ces choses-là. » Et est-ce que nous, aussi, notre question, est-ce que nous combattons pour l'acquérir? Parce que quand on entend un commandement comme « rechercher la sanctification », qu'est-ce que l'on fait pour rechercher la sanctification? Comme tous les commandements que Dieu nous que nous trouvons dans l'Écriture, il ne tombe jamais naturellement. Hein. Il faut toujours faire des choses, hein, faire des efforts pour les mettre en œuvre. Hein. Le salut même doit être mis en œuvre par des efforts. Donc quels sont les efforts? Quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour pouvoir justement obéir à ces commandements qui nous appellent à être saints pratiquement? Est-ce que nous les avons clairement dans l'esprit? Voilà, c'est un peu l'objectif de peut-être cette petite série sur ce thème. C'est un thème qui est important puisque la Bible en parle beaucoup. Voilà, donc on va commencer par une approche un peu générale. On va aller du général au particulier pour voir avec quelques passages, quelques versets au fur et à mesure du temps, comment nous pouvons croître aussi dans ce domaine-là, parce que nous sommes appelés à progresser dans le domaine de notre propre sanctification. Donc première chose que je voudrais voir un peu ce soir, c'est un peu l'importance de la sainteté du croyant. Okay. L'importance de la sainteté du croyant. On a dit un verset tout à l'heure. Premièrement, on peut voir que c'est important par plusieurs aspects. Mais un des aspects, c'est que la sainteté du croyant, c'est un commandement de Dieu. La sainteté pratique du croyant est un commandement de Dieu. Alors, on a cité, mais je vous lis, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 7. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On se pose souvent des questions sur, ouais, je connais pas la volonté de Dieu. J'aimerais savoir comment connaître la volonté de Dieu. On achète des tonnes de livres pour savoir comment connaître la volonté de Dieu pour moi. Parfois, on a une chose en tête qu'on voudrait faire. Et puis, c'est sur cette chose-là qu'on voudrait connaître la volonté de Dieu, c'est pas. Mais il y a plein d'endroits où, enfin, plein d'endroits. Il y a des endroits, en tout cas, clairement, où la Bible dit ce que Dieu veut, c'est, et là, voilà, un endroit où il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'accord? Par exemple, il est question de Dieu veut que l'on rende grâce en toutes choses. C'est à votre égard, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ici, il est question de Dieu qui veut notre sanctification. Donc je lis à partir du verset 3, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, c'est ainsi, et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car, verset 7, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Vous voyez, par trois fois ici, hein, il est question vraiment de cette volonté de Dieu, de ce commandement de Dieu. L'apôtre Pierre dit, on a cité tout à l'heure, hein, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé, donc 1 Pierre 1, verset 15, on avait étudié ce passage, hein, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Donc, soyez saint dans toute votre conduite, c'est un commandement. Donc quand on lit ça, on comprend que c'est la volonté de Dieu que on soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est le commandement même de Dieu pour que le chrétien vive dans la sainteté. Donc ça, c'est un aspect, on pourrait dire, qui montre que c'est important. Un deuxième aspect, c'est que la sainteté du croyant, on peut le voir dans le livre de la Bible, est l'objet même de la prière de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que Jésus a prié pour la sainteté? Jean 17. Dans Jean 17, dans sa prière, ça c'est la prière juste avant que le Seigneur ne soit crucifié, hein, il prie et il dit en Jean 17, 17, sanctifie-les, il parle pour ses disciples, mais après plus tard il dit, mais c'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi, comment il dit, tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Hein. Donc il prie aussi pour nous, pour les croyants, et il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, Jésus prie le Père pour la sanctification, la sainteté des disciples. Il y a plusieurs choses qu'il avait demandé, mais parmi les choses, l'une des choses qu'il demande au Père, et qu'il demande au Père d'exaucer cette prière, c'est la sainteté pratique du croyant. Et il veut que le Père intervienne. Il sollicite le Père pour qu'il intervienne dans la sainteté pratique du croyant, des disciples. Donc c'est dire que c'est quelque chose qui est important, un sujet de prière de Christ. Troisième aspect, on peut voir aussi, c'est une troisième chose qui peut montrer cette importance, c'est que la sainteté du croyant, c'est le but même du sacrifice de Jésus-Christ. Dans le même évangile, Jean chapitre 17, verset 19, quelqu'un peut lire ça, Jean chapitre 17, verset 19. C'est le premier qui l'a, peut le lire.
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Voilà. Il dit, Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi, ils soient sanctifiés. Jésus, il affirme que sa consécration à Dieu, je me sanctifie, je me mets à part. Il est en train d'aller vers la croix, hein, ici. Vous vous rappelez dans Hébreux, il a dit, on lisait ce passage, il dit, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté, hein. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, il vient pour offrir ce corps. Et là, ici, il dit, je me sanctifie, je me mets à part, je me consacre pour eux, afin, pour quel, à quel but? Afin que eux aussi, ils soient, il dit, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. C'est ça qu'il dit. Donc, il affirme vraiment que le but de cette consécration, du sacrifice à venir, c'est aussi la sainteté, la sanctification du croyant. Et l'apôtre Paul montre même que cette sainteté, c'est un but vers lequel on doit aller dans Romains chapitre 6, verset 19, je vous lis, il dit, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, dit, ainsi maintenant, c'est-à-dire maintenant que vous êtes en Christ, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Il dit que ce qui caractérise le non-croyant, c'est que son être, ses membres sont livrés comme esclaves à l'injustice pour commettre l'iniquité. Et ce qui caractérise le croyant, c'est que maintenant ses membres, son être, son corps, son être tout entier, est livré à la justice pour parvenir à la sainteté dans sa vie. C'est quelque chose, c'est relativement fort, je trouve, cette expression ici. Donc, on voit ici que le but, on pourrait dire le but du sacrifice du Christ, c'est aussi la sainteté du croyant. Ça, c'était le troisième point qui montre l'importance de cela, de la sainteté. Et puis, on pourrait ajouter aussi que toute relation, la sainteté du croyant est une chose extrêmement importante parce que toute relation avec Dieu exige la sainteté. Toute relation avec Dieu exige la sainteté. Hébreux 12, 14, qu'on a cité, dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pas possibilité d'avoir de communion avec Dieu sans sanctification, sans recherche de sanctification, sans la sainteté. Il est impossible de jouir d'une communion avec lui sans cela. Tout service pour Dieu exige la sainteté. Rappelez-vous ce que les Israélites avaient dit à Josué. Ils avaient dit, nous servirons l'Éternel. Vous vous rappelez de ça dans Josué 24, ils disent, nous servirons l'Éternel. Et Josué leur répond, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Est-ce que vous savez quelle raison il donne à cela? Est-ce que vous vous rappelez? Il dit pas parce que vous êtes trop faible, vous n'avez pas assez de muscles, etc. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car, dit-il, c'est un Dieu saint. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu est un obstacle au fait que vous puissiez le suivre comme ça par vos propres moyens. Il faut être sanctifié. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, bon, on va, il a dit, nous le servirons. À ce moment-là, il leur dit, ben, ôtez l'idolâtrie, les choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, il dit, sanctifiez-vous pour pouvoir servir Dieu. Donc, la sainteté de Dieu est un obstacle même à tout service de celui qui n'est pas sanctifié. Dieu veut être servi par ceux qui sont sanctifiés. Il est une relation avec ceux qui sont sanctifiés, ceux qui se sanctifient continuellement, ceux qui se purifient. Donc c'est la sainteté et la pratique de la sainteté dans la vie du croyant est extrêmement important. Toute relation avec Dieu exige cette sainteté. Tout ce qui rentrait en contact avec Dieu, de toute façon, quand on lit l'Ancien Testament, d'une manière ou d'une autre, devait être saint, sanctifié. Depuis les hommes, jusqu'aux ustensiles. Regardez Exode chapitre 40, par exemple. Exode chapitre 40, et au verset Exode 40. Donc, dernier chapitre, et au verset 9, il dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles. Il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et tu sanctifieras l'autel. Et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec la base et le sanctuaire. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu loindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez ici, hein, les ustensiles et les personnes doivent être sanctifiés pour pouvoir servir Dieu, pour être en relation avec Dieu. Donc, c'est important pour nous, en tant que croyants, de saisir la place que doit avoir dans notre esprit, dans notre vie, la recherche de la sainteté, de la sanctification, parce que il n'y a pas de relation véritable avec Dieu sans cela. Hein. Donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner très rapidement, de manière assez générale, hein, pas rentrer dans les détails ici, voir l'importance de la sainteté. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un commandement de Dieu. Christ a prié pour elle, pour cette sainteté. La sainteté du croyant, c'est aussi le but du sacrifice de Christ. Et puis, toute relation avec Dieu exige aussi la sainteté. Alors, on pourrait se pencher juste en deuxième partie ici sur... un peu la nature de la sainteté pratique du croyant. La question ici, c'est un peu, qu'est-ce que la sainteté, en fait, hein? Là, on a dit que c'est important, mais qu'est-ce que la sainteté? Comment vous définiriez la sainteté pratique du croyant? Puisque la Bible nous appelle être saint, c'est important de savoir ce que c'est, hein. Je pensais, quand on dit à quelqu'un, bon, va chercher, voilà, je veux que tu sois propre, on dit à l'enfant, avant de monter dans ton lit. Hein. Si c'est pas ce que c'est qu'être propre, il pourra pas être propre avant de monter dans son lit. Donc il faut lui montrer ce que c'est qu'être propre, il doit l'apprendre, il doit se renseigner, etc. Donc c'est pareil. Donc pareil, quand Dieu dit, je veux que vous soyez saints, c'est important pour nous de chercher ce que ça veut dire. Au moins d'avoir une idée, déjà. Donc je vous écoute. Est-ce que vous avez une idée? La purification, d'accord. Ça, c'est plus un acte, hein, déjà, oui, mais ça fait partie, très bien. Marcher par l'esprit, d'accord. Voilà, donc fait d'être mis à part par Dieu, et puis aussi s'éloigner du péché, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, ah, c'est déjà très dans la pratique, ok, d'accord, d'aller prendre, oui, d'accord. Ouais. On pourrait revenir sur ça beaucoup plus tard, c'est-à-dire sur les choses qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir aider dans la marche, la sanctification, très bien, ok. Très bien. Donc, être saint. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça, il y a des gens qui disent, bon, ben, c'est une liste de choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, hein. Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que être saint, c'est, adopter un style particulier d'une tenue, etc., un style de musique ou autre? Ou est-ce que c'est ne plus pécher, hein? Alors, toutes ces choses-là sont un petit peu liées, c'est faut s'éloigner du péché, mais c'est pas tout à fait cela, la sainteté. Quand la Bible parle de la sainteté, on l'a dit, c'est le mot lui-même, être saint, ça veut dire être mis à part, être consacré. Alors, quand l'apôtre Pierre dit, par exemple, on avait étudié cela dans 1 Pierre 2:9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, il parle de l'Église, on pourrait dire presque, enfin, de la communauté des croyants, une nation sainte, ici. On prend pas le mot saint comme voulant dire sans péché, mais comme voulant dire exclusivement réservé à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les ustensiles, on a lu tout à l'heure dans Exode, les ustensiles devaient être saints, d'accord? Mais on peut pas dire que les ustensiles sont sans péché. Ça n'a pas de sens. Pourtant, Dieu dit que ce sont des choses saintes. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne doivent servir que pour lui. Elles ne sont pas profanes, elles ne sont pas communes. Elles sont mises exclusivement, elles sont réservées exclusivement pour le service du temple pour l'autel, etc. Donc, je vous lis par exemple en Exode 30, il est dit, tu oindras la tente d'assignation, l'arche de témoignage, la table, tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous les ustensiles, la cuve avec sa base, tu sacrifieras toutes ces choses, elles seront très saintes. La cuve, toutes ces choses-là, ce sont des objets, hein, il dit, mais elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Imaginez, hein. Donc, c'est vous dire la sainteté que ces choses ont acquises. Et en même temps, quand Dieu dit que ces choses seront très saintes, il ne dit pas que ce sont des choses qui sont sans péché, ça n'a pas de sens pour des objets, mais qu'elles sont consacrées exclusivement pour lui. Donc, l'Église est sainte, elle est consacrée aussi à Dieu. Le chrétien est appelé saint, il est exclusivement consacré à Dieu. Donc, c'est cette idée-là qu'on retrouve, par exemple, dans Lévitique 20, 26, où Dieu dit, « Vous serez saints pour moi, car moi je suis saint, l'Éternel. » Et écoutez, il dit, « Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Donc, il donne ici l'explication de ce que ça veut dire la sainteté. Hein. Il dit, « Vous serez, Lévitique 20, 26, vous serez saints pour moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, « Pourquoi ?» Ben, il dit, « Parce que moi, je suis saint, l'Éternel. » Et puis, il ajoute, « Comment ça s'est produit ?»« Mais je vous ai séparé des peuples, je vous ai sorti des peuples, afin que vous soyez à moi, exclusivement. » Et quand on devient un enfant de Dieu, c'est pareil. Dieu nous sort du monde pour qu'on lui appartienne en propre. C'est ce que Tite dit. Hein. Il dit qu'il nous a... j'oublie comment il dit, j'ai pas toute la mémoire de ce verset, hein, mais Tite 1, 14, je crois, hein, parle du fait que Dieu nous a délivré, il s'est fait un peuple, d'accord, il s'est racheté un peuple qui lui appartient en propre, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc c'est exactement la même chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire, donc la sainteté en fait consiste ici, si on essaie de la définir, par le fait d'être mis à part pour Dieu, comme on a dit, en se séparant de tout ce qui n'est pas pur, afin de pouvoir le servir. Alors il y a un auteur, il le dit comme ça, Jerry Bridges, qui a écrit un livre sur la sainteté, il dit, être saint, c'est être moralement irréprochable, c'est avoir coupé les ponts avec le péché, et par conséquent, être consacré à Dieu, c'est être mis à part pour servir Dieu et se conduire comme il sied à des gens ainsi mis à part. Okay, donc on est sorti d'un cadre, placé dans un autre avec un objectif de service dédié à une personne exclusive. Voilà. Et puis on doit tout faire pour rester dans cela et pour nous écarter aussi de tout ce qui pourrait nous en détourner. Donc c'est vraiment le fait d'être mis à part et de se détourner un peu du péché pour pouvoir servir Dieu, de se couper de tout ce qui est impur, être moralement irréprochable pour Dieu. Ça c'est on pourrait dire un peu une définition qu'on a essayé de donner ici hein, au terme de la sainteté, le fait d'être saint. Alors je vous donne quelques versets, on va les lire ensemble et puis vous allez essayer de définir quel aspect, on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que c'est que la sainteté avec quelques versets. Et donc, je vous donne le verset et puis on va essayer de résumer une phrase qui pourrait nous indiquer ce que ce verset dit de la sainteté, hein, comment on pourrait le comprendre. Hein. Alors, par exemple, Romains, quelqu'un peut lire, hein, quelqu'un cherche là, Romains 6, verset 22. Romains 6, 22.
Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici de la sainteté? C'est facile. Oui, ça c'est la fin, mais concernant la sainteté elle-même. Voilà, il dit que la sainteté est un fruit. Il dit, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Puis pour fin, il dit, voilà, pour je veux dire, accomplissement final, la vie éternelle. Mais il dit, vous avez pour fruit la sainteté. C'est-à-dire que vous produisez dans votre vie là, vous portez la sainteté. Donc celui qui devient un enfant de Dieu, il dit, et à qui il parle, de qui il est question ici? Au début du verset, il dit quoi? Je ne m'en rappelle plus. Mais maintenant, voilà. Ayant été affranchi du péché. Donc c'est les gens qui sont affranchis du péché. Ceux qui sont rachetés, sauvés par Christ. Quand on dit mes péchés m'en sont pardonnés, et puis il dit mais voilà ce qu'on doit voir, c'est le fruit, c'est la sainteté. Donc la sainteté est le fruit qui découle du salut. C'est le fruit inévitable, on pourrait dire, du salut. De même que la pomme, c'est le fruit inévitable du pommier. D'accord? Ça pousse pas sur un poirier, les pommes. Ça pousse sur un pommier. Et la sainteté, si on pouvait utiliser l'image, c'est le fruit porté par celui qui a été affranchi du péché. Donc ça, c'est une caractéristique de la sainteté. Fruit porté par celui qui est sauvé. Éphésiens 5, versets 3 et 4. Éphésiens 5, versets 3 et 4. Quelqu'un veut lire ça? Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? J'ai dit quoi? J'avais Éphésiens 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui. Oui. J'ai mis que la sainteté, voilà, elle doit se caractériser même dans les propos, hein, dans les conversations que l'on a. Et où il est question que même les certaines choses ne doivent pas être, doivent même pas faire partie. Il y a des choses qui ne doivent même pas faire plus partie de la discussion du croyant. Hein. Donc dans les propos, dans les sujets même de conversation, eh bien, ils doivent être empreints de sainteté aussi, hein, dans la vie du croyant ici. Mais il me semble qu'il y a un mot que je cherchais que j'ai peut-être pas souligné. Donc, c'est pas grave, on va voir le suivant. 1 Thessaloniciens 4, on a lu déjà ça, hein, versets 3 et 7. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la sainteté ici? De quoi est-ce qu'il est question ici? Quelqu'un là? On a déjà lu tout à l'heure, je l'ai lu tout à l'heure, hein, au tout début. C'est là où il est question, le verset où il est question de ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous vous absteniez de l'impudicité et que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et puis à la fin, il dit ce que Dieu, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, en quoi il met la sanctification en contraste avec quoi ici? La sainteté en contraste avec quoi? La débauche. Et donc la débauche ici, c'est tout ce qui est relation sexuelle illicite, hein. Donc c'est tout cela qui est question ici. Donc on pourrait dire ici que la sainteté consiste à maintenir son corps hors de toute immoralité, ici, hein, voilà cela, hein, et de toute relation sexuelle illicite, hein. C'est un peu ce qu'il dit, parce qu'il dit Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc on voit que ça touche aussi ce domaine-là. Puis un dernier verset, dans Tite, chapitre 2, verset 3. Tite, chapitre 2, verset 3. Alors, je passe un peu vite, on va revenir après on va prendre le temps de manière plus pratique sur certains aspects. Aujourd'hui, je veux juste survoler un peu les choses. Tite chapitre 2, verset 3. Quelqu'un là ? Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça dit là sur la sainteté? Ça nous dit quoi sur la sainteté ici? Oui, ça n'est pas sur notre extérieur. Ici, il dit que les femmes âgées, il dit, c'est ça, hein? Doivent avoir l'apparence qui convient à la sainteté. J'ai pas le verset sous les yeux. L'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il dit que la sainteté touche l'apparence extérieure. Et cette apparence extérieure-là, elle ne doit pas venir en conflit avec quoi d'autre ? Si on lit bien le passage-là, Jean-Pierre l'a lu entièrement, donc on peut... Jusqu'à la fin, il dit, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Ces femmes ? Oui, mais elles doivent faire quoi, ces femmes ? Elles doivent donner de bonnes instructions à qui? Aux jeunes femmes pour leur apprendre quoi? À aimer leur mari, etc. Donc ça veut dire qu'elles ont un ministère qu'elles doivent avoir à côté d'autres, et que si dans leur apparence extérieure, il y a la tenue, certainement là-dedans, mais il y a aussi le fait de, il dit pas à donner au vin, je crois, quelque chose comme ça, hein. Donc il y a la manière de se nourrir, de boire, si, voilà, etc. Et dit, si dans toutes ces choses, elles n'ont pas l'attitude qui convient à la sainteté, elles font obstacle au témoignage qu'elles doivent apporter aux plus jeunes. Donc on voit que la sainteté, la recherche de la sainteté dans l'apparence extérieure et tout ça aura un impact dans le témoignage que l'on a aussi auprès des autres. Voilà, on pourrait dire voilà une raison pour laquelle c'est important, mais voilà un aspect de la sainteté, ça permet le témoignage, ça permet de valider le témoignage auprès d'une plus mature dans la foi, auprès d'une plus jeune dans la foi. Voilà, donc ça c'était le premier point avec quelques aspects ici sur la sainteté. Mais je voudrais juste terminer pour ce soir avec ce point aussi que l'être tout entier est concerné par la sainteté. Quand on parle de sainteté, on pense souvent à quoi? On pense au corps en général, à ce qu'on pourrait faire. L'apôtre Paul dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien sûr, on pense uniquement à ce que le corps peut faire. Mais dans 2 Corinthiens, regardez 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Je vous lis le verset dans la traduction second 21, il dit « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Donc là, on a déjà comment on peut poursuivre la sainteté. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais une autre fois, il faut se purifier de toute souillure. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il dit de toute souillure du corps et de l'esprit. Pas simplement du corps. Parfois, on peut faire beaucoup d'efforts pour préserver le corps et puis pas d'efforts pour préserver l'esprit. Et la sainteté, dans sa nature, la sainteté pratique, s'occupe à la fois du corps, mais aussi de l'esprit. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, vous vous rappelez, qui faisait beaucoup d'efforts pour le corps. Jésus disait, vous nettoyez l'extérieur du récipient, mais à l'intérieur, il y a plein de rapines. C'est ça à l'intérieur. Alors, bien sûr, on peut dire, moi, je ne commets pas de l'adultère, et c'est pour ça que Jésus disait, Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec concupiscence, avec des désirs, bien il a déjà commis l'adultère. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il dit, mais ça touche aussi l'esprit. L'esprit aussi doit être purifié. Donc, il y a des souillures qui sont des souillures parfois évidentes dans lesquelles on sait comment ne pas tomber, mais on peut se laisser bercer par d'autres types de souillures que l'on reçoit dans les films ou dans des choses, etc. Et puis chuter avec cela. On peut peut-être être suffisamment attentif, n'est-ce pas, pour ne pas tomber physiquement dans la débauche, dans un acte illicite, mais on peut être extrêmement léger dans la manière avec laquelle on laisse notre esprit s'imprégner des pensées du monde, des choses du monde, en les regardant sans que ça nous choque, etc. Vous voyez, et quand Dieu parlait à Malachie, dans Malachie concernant le divorce, il disait prenez garde à votre esprit, parce que c'est souvent là que se jouent les choses. Donc c'est une chose qui est importante. L'être tout entier est concerné, on le voit aussi dans la Bible, par la recherche pratique de la sainteté. Pas simplement le corps qu'on doit préserver, on doit préserver aussi l'esprit, la pensée, et la garder aussi dans la sainteté pour Dieu. Voilà, je m'arrête ici pour ce soir. On verra des choses plus pratiques les prochaines fois, mais que le Seigneur nous aide à comprendre l'importance de cela, rechercher la sanctification, la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et ça peut être un objectif pour nous de croître dans ce domaine-là aussi, tout au long de cette année qui vient. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons de nous aider à la mettre en pratique. Et Seigneur, tu sais combien c'est difficile dans ce domaine de la sainteté. Nous te prions que tu nous conduises, que tu nous rendes sensibles à ta parole et désireux de mettre en pratique tous tes commandements. Seigneur, préserve-nous du mal, garde-nous. Protège-nous, donne-nous de rechercher dans ta parole, de faire de ta parole la joie et l'allégresse de notre cœur, que nous puissions y demeurer constamment et la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garde chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Amen.